Canou présente dans la cyrillique radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Tenaille. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Assis sur des fauteuils en cuir marron, dans le salon anglais, Frédéric Bonneau, un jeune homme grand, mince, les cheveux châtains, un visage fin avec de grands yeux bleus, où lorsqu'il vous regarde, vous semblez vous y perdre. Il est habillé d'un costume gris. La personne qui est en face de lui, c'est Robert Léhéron. Aussi un jeune homme, de taille moyenne, bien fait, les cheveux châtains. Frédéric lui dit « Mes parents ne s'entendaient pas. Mon père était un bosseur et ma mère une mondaine. Mais à la fois, mère poule, tu vois, Jean-mère poule. Ma mère laissait mon père et nous partions faire de longs voyages à travers l'Europe. D'être constamment en voyage et avec ma mère, ça n'était pas très intéressant. C'était plutôt pénible. » Elle était constamment après moi. Elle avait une peur maladive qu'il m'arrive un accident. Et puis, elle ne voulait pas que je parle à qui que ce soit. Elle avait peur que ce ne soit pas fréquentable. Ce qui fait que je n'ai jamais eu d'amis. Comme je pouvais aller à l'école, une institutrice nous accompagnait dans chaque voyage. Puis, un jour, mon père est tombé gravement malade et a été obligé de revenir. Ils avaient vieilli, elle et lui, ce qui fait qu'ils sont restés ensemble. Moi, j'avais 17 ans. Je rêvais de liberté. De temps en temps, je sortais seul. Un jour, j'ai vu une affiche à l'entrée d'un immeuble disant que l'on recherchait de jeunes gens pour jouer la comédie dans une troupe théâtrale amateur. Je n'avais jamais pensé au théâtre, mais je me suis dit que cela me permettrait de faire des connaissances. Je suis entré dans l'immeuble, frappé à la porte de la concierge pour lui demander où était cette troupe théâtrale. Au fond de la cour, dans un vieil hangar où l'on mettait dans le temps des fiacres. C'était sombre, le sol était en terre battue. Il y avait des rangées de chaises en bois au fond de la pièce, une haute estrade en bois qui était censée représenter la scène. Tu vois le truc. J'étais reçu par une femme, ce genre de femme féminine mais avec un costume d'homme. Elle était aussi grande et mince que moi, dans les 25 ans à peu près. Cheveux coupés très courts, portait un costume beige et une chemise noire, les mains dans les poches. Elle vint vers moi et me demanda ce que je désirais. Je le lui dis, elle me dévisagea et me regarda de la tête aux pieds. Elle me demanda si j'avais fait du théâtre. Je lui dis que non. Elle me dit qu'elle voulait bien m'essayer et me donna rendez-vous pour la semaine suivante. J'étais content, mais inquiet. Qu'allaient penser mes parents? Je décidai d'aller le leur dire tout de suite. Mon père ne me dit rien. Mais ma mère, alors elle s'inquiéta et voulait absolument m'accompagner. Moi, cela me gênait, je lui dis. Elle me dit que j'étais mineur, donc qu'il fallait être accompagné. Enfin, elle m'accompagne. Elle a regardé le théâtre avec dégoût. La femme semblait rire sous cap. Elle m'a fait monter sur la scène et donner un livre où je devais lire, comme d'habitude, comme on fait à tous les jeunes acteurs, une tirade d'Hamlet, toujours la même. Être ou ne pas être, etc. Je l'ai lu comme ça, simplement, sans chercher à faire des faits. Elle m'a dit que c'était bien. Ma mère a été surprise. Et elle a accepté que je joue. Je venais tous les jours à 18h, répéter, accompagné de ma mère. Au début, ça a surpris, puis petit à petit, on l'a oublié. Elle s'asseyait dans la salle, non éclairée, et ne bougeait plus. Elle ne disait rien, mais je la sentais constamment près de moi. Robert sourit et dit « Et tu as eu du succès à la première, etc., etc. » Mais j'aimerais bien savoir, c'est comment tu as fait pour que tes parents acceptent que tu vives seul? Alors ça n'a pas été facile. J'aurais dit que tous les jeunes de mon âge vivaient seuls et que ça ne faisait pas très sérieux qu'un comédien vive chez ses parents. Alors ils ont accepté, à condition, toujours des conditions, que l'appartement ne soit pas trop loin de chez eux. Ma mère vient toutes les semaines voir si tout va bien. Je suis indépendant, sans l'être vraiment, comme tu vois. Robert regarde sa montre. Je dois partir. Il se lève. Déjà? Eh oui. Frédéric se lève. Et soupire. Semble mécontent. Ça ne va pas? Rien, j'aurais aimé que tu restes un peu plus longtemps. Je veux m'en enivrer, mais il le faut. Et se dirige vers la sortie. Frédéric le suit en colère, le dépasse et lui ouvre la porte. Robert lui tend la main et lui dit « Bonne nuit ». Frédéric la prend et lui dit « Bonne nuit ». Robert s'apprête à sortir de l'appartement. Frédéric lui tient toujours la main et lui dit « Attends, quoi ?» Frédéric lui dit « Rien ». Et il lâche la main. Robert sort. Frédéric ferme la porte. « Merde, merde !» Et il retourne au salon furieux. Il prend sur une table basse un verre qu'il remplit de bourbon. Le bois d'une traite. Le téléphone sonne. Il va le décrocher, le verre à la main.
Allô, Frédéric, c'est maman, ça s'est bien passé?
Oui, bonne nuit. Et furieux, il lance le verre contre le mur. Après la représentation, la directrice du théâtre et metteur en scène, la femme qui l'a engagée, Elena, lui dit « Nous allons boire un verre? J'ai pas envie de me coucher ce soir. » « Oui, bien sûr. » Ils sont sortis, la nuit est douce, il a plu. La rue est mouillée. Elle lui dit « J'aime lorsqu'il a plu. Les rues sont de Paris sont luisantes. C'est beau, non ? » ?»« Oui. » Elle le conduit dans un petit bar. Malgré l'heure tardive, il y a plein de monde. Ils se faufilent et vont s'asseoir à une table du fond. Elle prend de sa poche gabardine beige, un briquet, un paquet de cigarettes. Tu en veux une? Non, merci. Elle s'en allume une. Un barnaman arrive. Il commande deux fruits défendus.
Je vis seul, moi aussi. Quelquefois, la solitude, c'est un peu pesant. Tu ne trouves pas?
Non.
Il est vrai qu'avec ta mère... Il faut que tu prennes de plus en plus d'indépendance. Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail?
Je poursuis mes études.
Et à part cela, rien.
Tu n'as pas de petite amie?
Non.
Tu n'en as jamais eu?
Non.
Je crois.
Ça ne te dirait pas?
Je te trouve beau garçon. Il rougit.
Termine ton verre, allons chez moi. Je délai l'excellent champagne et de la bonne musique.
Il n'ose pas dire non, termine son verre et il sort.
Celui-ci qu'on peut vraiment prendre la température d'un peuple.
Le conduit chez elle en silence. C'est à 200 mètres du café. Vieil immeuble un peu délabré, sans ascenseur. Elle habite au 5e étage. Ouvre la porte. Une fois qu'ils sont entrés, un chat noir se faufile à ses pieds. Elle lui dit,
n'aie pas peur, c'est Mimi.
Elle se baisse, le prend dans ses bras et le caresse. Elle a allumé. C'est une immense pièce avec des piles de livres à terre, un lit défait en fer, à ses pieds une lampe de chevet et un cendrier rempli. Une table de jardin avec quatre chaises autour, peint en blanc. La table est remplie de victuailles. Un évier en pierre, plein de vaisselle et un réchaud sur un petit meuble en bois.
Ah, c'est pas aussi bien que chez toi. mais c'est là où je vis et où j'aime vivre. Enlève ta veste. » Il enlève et elle enlève sa gabardine. Elle prend la veste, elle sa gabardine et va poser les vêtements sur une chaise. Assieds-toi, je vais te servir du champagne. Il va s'asseoir. Elle va au petit meuble, l'ouvre, en sort une bouteille et deux verres en plastique. Il va le servir. Pardonne-moi, mais je ne prendrai pas de champagne ce soir. Il va s'asseoir à côté de lui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je ne sais pas vraiment. Mes parents souhaiteraient que je fasse Sciences Po et entre dans un ministère. Elle hausse ses épaules. Ils t'ont gâché ta jeunesse. Il ne faut pas qu'il continue. Tu as du talent. Joue la comédie. Sois comédien professionnel. Ça te plairait? Oui, je ne sais pas. Si ça te plaît, je t'aiderai. Je connais du monde dans le métier. Et puis, je te donnerai des leçons. Merci. Et toi, pourquoi n'es-tu pas comédienne? Ah, moi? Parce que je sais diriger, mais je ne suis pas... Je ne peux pas obéir. Et puis, j'ai un gros défaut. La bouteille et les médicaments faciles. J'ai besoin d'être topé, tu comprends. Je vais chez les médecins, je leur fouche en papier pour faire de fausses ordonnances. Tantôt, j'ai besoin de prendre pour dormir. Tantôt, d'excitant. Et le tout bien arrosé. Alors, tu penses à mémoire. Je ne peux pas jouer. Alors, puisque je ne peux pas, je fais jouer les autres. Mais assez parlé. La nuit s'étire. Finis ton verre. Il le termine. Elle se lève et va vers lui. Lui tend la main. Viens. Il se lève. Elle le prend à la main et le conduit vers le lit. Elle éclaire la lampe de chevet et le plafonnier, puis va vers lui. Il est tremblant, aimerait s'en aller mais n'ose pas. Elle lui dit « N'aie pas peur, c'est la première fois ». Elle lui enlève sa cravate et sa chemise. Lui caresse la poitrine. « Tu as une belle poitrine ». La lui baise, lui défait sa ceinture, descend la braguette et descend le pantalon. Il a honte car il ne bande pas et ne ressent rien, seulement la peur. Elle lui retire ses mocassins. Enlève le pantalon, puis le slip. Un joli petit sexe blanc avec quelques poils. Elle sourit, le prend à la main, le décalote et le met à la bouche. Il sent que son sexe entre dans quelque chose de moelleux, mouillé. Elle a beau sucer, il ne bande pas. Elle s'arrête, se relève, l'embrasse ses lèvres, il ne réagit pas. « Que t'arrive-t-il ? » Il ne dit rien et la honte. « C'est pas grave, c'est l'émotion. Allonge-toi sur le lit. » C'est ce qu'il fait.
qu'elle se met nue. Et s'allonge à ses côtés. Caresse ses cheveux. Détends-toi, ça ira mieux. Au petit matin, ils se sont levés et habillés. Elle lui dit, c'est pas grave, c'est l'émotion. Il se sauve en courant. Une fois dehors, il se dit, quelle idée ai-je d'accepter d'aller chez elle? C'était ridicule tout ça, et dégoûtant. À quoi cela rime à chercher à faire ce que font les autres? Ce que l'on appelle l'amour. C'est dégoûtant. Si les gens se voyaient le faire, ils en auraient honte. Le lendemain, il va tout de même au théâtre. Elena le reçoit comme de si rien n'était. Et ils refont leur répétition. Et le soir, avant qu'il s'en aille, il le tire à part, le plaque contre le mur et l'embrasse. Puis le lâche. Et lui dit, bonsoir. Tous les vendredis, sa mère sonne chez lui. C'est une grande femme maigre, le nez pointu, les cheveux gris, élégante, mais autoritaire. Bonjour mère. Bonjour mon fils. Elle l'embrasse au front. Mette son manteau et ses gants, puis... inspecte les pièces. Pourquoi as-tu jeté des cendriers? Tu ne fumes pas? Ou tu fumes alors? Non, mais c'est pour les invités. Tu n'as qu'à leur dire que tu veux pas que l'on fume chez toi. Puis, elle va dans la chambre. Voit le lit défait, le structure bien. Et en le faisant, elle regarde et sent pour voir s'il n'y a pas de trace d'une autre personne. Cela agace Frédéric. Ensuite, elle va à la cuisine, voir le réfrigérateur. Il est presque vide. Il faudrait faire les courses. Où étais-tu hier? J'ai téléphoné, ça ne répondait pas. J'étais chez une personne. Fais attention, ne ferais pas tente pas n'importe qui. Tu dois rester sérieux. Et si un jour tu veux te marier, je te présenterai des filles bien. Mais je t'en prie, reste sérieux. C'est pas bien de coucher avec une personne comme ça. Enfin, tu me comprends. J'ai accepté que tu fréquentes les gens de ce théâtre, malgré qu'ils ne soient pas de notre monde. Mais fais attention, ne fréquente que des gens comme il faut. Pas de froden. Et si tu as des poussées, enfin, fais du sport. Tes études, ça marche? Oui, mère. C'est bien. L'université catholique, il n'y a que ça, mon petit. En plus de ces visites hebdomadaires, sa mère lui téléphone sans arrêt, de préférence ce soir. Cela l'agace. Il aimerait avoir plus d'indépendance. Il a tout de même 20 ans. L'éducation avec cette mère possessive l'a rendu timide et à cause d'elle, un manque d'attrait pour les femmes. Instinctivement, auprès d'elle, Il semble étouffé et a peur qu'elle ait un côté possessif avec lui. Tout ce qui est féminin, inconsciemment, lui rappelle qu'il faut subir sa mère. Et comme enfant, il n'a jamais pu avoir de petits camarades pour jouer à cause d'elle. Il arrivait d'un ami et en rêve encore. Un ami idéal. À force de rêver, cette amitié, il l'a idéalisée, transformée en amour pur, puis en désir. Ce qui fait, à cause de sa à l'âge adulte, en plus de la vie qu'elle lui fait mener, il se sent à part les autres, avec des désirs autres, ce qui le rend à ses yeux insociable. Pour lui, qui cherche à être comme tout le monde, c'est intolérable. Elena cherche toujours à l'embrasser ou lui prendre la main. Cela le gêne, mais n'ose rien dire de peur de créer un scandale. Elle lui propose souvent d'aller prendre un verre chez elle. Il refuse poliment. Un jour, Elena vient au théâtre avec une jeune fille. Elle est grande, mince, ses cheveux bruns, un visage lisse avec de grands yeux dorés et d'énormes sourcils. Elle porte une petite robe blanche. « Je vous présente Elisabeth. Elle jouera avec nous la mouette de Tchekhov. » Elisabeth a tout de suite remarqué Frédéric. Lui aussi l'a remarqué. Il la trouve bien sans plus. Son esprit est plus préoccupé par Robert, celui qui fait l'éclairage. Il rêve que Robert et lui deviennent très amis. Robert est bon, beau, calme. C'est tout ce que Frédéric préfère. Robert lui parle de temps en temps. Il est même venu prendre une revue chez lui, mais c'est tout. Et Frédéric n'ose pas passer trop avant et faire des propositions de choses et d'autres, comme celle de le réinviter. Il aimerait que ce soit Robert qui le fasse. Il en serait très heureux, et cela prouverait qu'il a de l'amitié pour lui. Mais Robert ne fait rien, alors Frédéric souffre. Après les répétitions, Frédéric et Elisabeth ont été très bien. Ils ont fait une pause. Frédéric s'assoit sur un bord de scène pour manger un sandwich. Elisabeth va s'asseoir à ses côtés. Cela ne vous ennuie pas que je m'assoie à vos côtés, non? J'ai trouvé que vous aviez très bien joué, dit-elle. Je vous remercie, mademoiselle, mais vous aussi. Vous pouvez m'appeler Elisabeth et moi Frédéric. Elle lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant, moi aussi. Je fais des études d'histoire. Je fais du théâtre, c'est pour me dépayser et me forcer à avoir des relations avec les autres. J'ai eu une éducation très stricte avec ma mère et très sévère. La première fois, Frédéric rencontre une fille qui lui ressemble. Peut-être, m'aidera-t-elle, peut-être pourrais-je avec elle. Désormais, ils se parlent et entrent. être ensemble. Je sens bien avec cette jeune fille. Enfin une qui n'est pas comme les autres. Qui ne cherche pas à s'emparer de lui. À lui prendre son âme. Il se met à rêver qu'il pourrait vivre heureux avec elle. De temps en temps, il l'invite à boire un verre au café. Au cinéma, ils sont allés voir un vieux film, soudain l'été dernier, avec Montgomery Clift et Elizabeth Taylor.
Catherine's going to be all right.
Well, why can't she come home?
Don't worry, she will. Why don't you take care of her?
Yeah, sure.
Come on, Mom. Catherine? Miss Catherine?
She's here, Doctor. Miss Catherine's here.
Le film leur a plu. Il lui dit, c'est un film américain, mais je trouve très beau, très bien fait. Il a été tourné en Angleterre. Il vous a plu le film? Oui. Puis, ils sont arrivés devant chez elle. Elle a dit au revoir, ils ont tendu la main. Elle habite chez ses parents, dans un grand immeuble cossu. Désormais, ils se voient tous les jours. Frédéric se sent bien, il est heureux. Il a une tendre amitié pour Elisabeth. Pour lui, c'est une jeune petite sœur, gentille petite sœur qui aime tendrement. Il la trouve belle et douce, mais ne la désire pas. Ça aussi, c'est une chose qui facilite les relations avec elle. Et elle ne fait aucun geste ou parole équivoque. C'est une vraie jeune fille. Pour lui, c'est une petite fiancée idéale. Il ne pense pas une seconde à ce qu'elle doit penser ou souhaiter de ses relations. A-t-elle envie qu'il l'embrasse, qu'il aille plus loin? Mais un jour, tout de même, machinalement, ils se sont pris la main et désormais, elle la lui donne. Un soir, arrivée chez elle, elle lui dit « Parents aimeraient vous rencontrer. Si vous voulez entrer un instant, n'ose pas dire non, mais se sent très intimidée. » L'immeuble est très cossu, 18e rénové, tapis sur les escaliers de marbre, vieil ascenseur, au troisième, elle sonne. Une vieille domestique lui a ouvert. Mes parents sont-ils là?
Oui, mademoiselle, au salon.
Ils entrent. La domestique les conduit au salon. Salon Louis XV, où ils le retrouvent assis, qui se lèvent en leur arrivée, le père et la mère d'Élisabeth. Le père est un homme grand, maigre, sec, aux cheveux gris ras et porte un costume gris. La mère est une femme un peu plus petite, maigre aussi. Elle porte une robe noire. Le père s'approche d'eux. Bonjour, jeune homme, la fille lui dit. Père, je te présente Frédéric Bonneau.
Enchanté, je suis très heureux de faire votre connaissance, mais venez, asseyez-vous.
Ils vont vers la mère pour s'asseoir. Derrick la salue.
Monsieur, moi aussi je suis très heureuse de faire votre connaissance.
Fois qu'ils sont assis, le père dit.
Surtout ne soyez pas intimidé, jeune homme. J'étais jeune, moi aussi. Vous voulez boire quelque chose ?
Non, merci.
Ma femme et moi voulions simplement voir quel était ce jeune homme qui fréquentait ma fille. C'est tout naturel, n'est-ce pas ?
Nous avons été en affaires, votre père et moi.
Un homme charmant, votre père.
Comme vous voyez, nous sommes entre gens de bonne connaissance.
Puis, ils ont parlé de choses et d'autres. Puis Frédéric est parti. Désormais, il pourra sonner chez eux pour prendre la jeune fille. C'est ce qu'il fait, et les jours passent ainsi. Un jour, sa mère, tout en nettoyant chez lui, elle lui dit :
j'ai appris quelque chose qui m'a fait très plaisir. Il paraît que tu fréquentes la petite Bernardin. J'en suis très heureuse. C'est une famille très bien. Tu vois, mon fils, d'être sérieux, cela rapporte. Les parents n'auraient jamais accepté que tu fréquentes leur fils s'ils n'avaient pas été sérieux. Sa mère et moi, nous nous téléphonons toute la semaine. Nous sommes tellement heureuses d'unir notre famille.
Ce que vient de lui dire sa mère donne froid dans le dos à Frédéric. Il rêve de se marier avec Élisabeth, mais sans plus, pas vraiment. Et puis, si sa mère s'en mêle, c'est que c'est des amis à elle. Il se sent pris dans un piège. Mais très vite, il oublie tout ça en voyant Élisabeth, qui semble si pure et douce. Et le temps passe. Un soir, Élisabeth lui dit que son père désire le voir. Le père le reçoit, les bras ouverts, à son bureau. Sans la fille.
Madame, comme cela, nous pourrons causer plus franchement.
Votre mère m'a dit que vous étiez très timide et qu'il fallait, pour votre bien, vous forcer un peu. Cela fait bientôt 6 mois que vous voyez ma fille. Il est temps de vous déclarer, mon jeune ami.
Et oui, je serai très heureux que vous voir comme gendre. Et après vos études, je vous prendrai avec moi dans mes affaires. Mais tant que vos études ne seront pas finies à tous deux, nous vous aiderons financièrement. Vous voyez, je suis un honnête homme. Et puis, vous serez heureux tous deux. Vous êtes enfant unique. Vous aurez 2 beaux héritages à vous deux, donc pas de soucis d'avenir. Allons. Alors, vous vous aimez ?
Oui, bien sûr. Ne rougissez pas, c'est naturel, c'est beau l'amour.
Nous avons déjà eu des entretiens avec vos parents, des gens charmants. Nous pourrons faire les fiançailles dans 1 mois, dans ma villa à Biarritz. Vous viendrez, n'est-ce pas ? C'est un endroit charmant.
C'est oui ?
Il n'ose pas dire non.
Oui.
Oh, je suis heureux. Il sonne. Embrassez-vous, mes enfants. Il a dit oui. Frédéric se lève pour embrasser Elisabeth. Le père les prend à l'épaule et leur dit « Allons annoncer la bonne nouvelle à ma femme. » Une fois, voilà Frédéric pris malgré lui. Sa fiancée lui demande d'être présentée à ses parents. C'est ce qu'il fait. Un soir, il l'amène. Son père et sa mère la reçoivent. Tout se passe bien. La mère semble très heureuse. Elle commence à faire des projets d'aménagement pour l'appartement du futur couple. Dès le lendemain matin, la mère vient chez lui prendre des mesures. Elle veut changer les meubles, rideaux, tapis, tout quoi. Frédéric la laisse faire. Les jours passent, il est pris dans un tourbillon, il n'a plus le temps de réfléchir. Il doit sortir sa fiancée, faire les magasins, la présenter aux amis de sa mère et à elle. Il ne se pose même plus la question de savoir s'il est heureux ou non. Elle est belle, douce, tous se disent et lui le pense aussi. Donc il doit l'aimer et il doit en avoir le devoir maintenant. Un mois passe vite. Ils partent tous pour Biarritz, ses parents, les amis. La villa est grande, tout le monde peut y habiter. La villa est une grande bâtisse, toute blanche, en haut d'une falaise. Pour y accéder, il faut grimper une route en lacet qui se trouve à ras d'un précipice. Une fois installés dans leur chambre, Frédéric se sent anxieux. C'est sans doute à cause de la présence de sa mère. On a invité aussi les gens du théâtre. La mère a dit « Ça fera plaisir à Frédéric ». De temps en temps, durant la journée, il voit Robert. Il n'ose pas lui parler car il sent un trouble en le voyant et se dit que ce n'est pas bien. Au déjeuner, tous sont réunis. On a mis une grande table sur la terrasse. L'ambiance est décontractée. On attend la soirée. Frédéric n'a pas faim. Sa mère, belle-mère et fiancée sont en face de lui. Il se sent épié. Il n'ose pas lever les yeux sur son assiette. Après le repas, ils sont tous dans leur chambre pour faire une sieste pendant que deux domestiques s'affairent pour la soirée. Frédéric, allongé sur son lit, se demande s'il ne fait pas une bêtise. Si je partais, me sauverais. Et ma mère? C'est ma mère qui a tout magnifié ça dans mon dos. Elle a tracé ma vie, sa vie, comme je dois vivre. La vie que je dois vivre, sa vie. Le soir est là, il doit se préparer pour la soirée. Quelle mascarade! n'en veut pas à sa fiancée et n'y est pour rien, est innocente comme lui. Il sort de sa chambre. Il est 21h, tout est éclairé. Même le jardin, un orchestre joue en bas, dans un grand salon, toute porte ouverte. De nouveaux invités arrivent, par groupe, en tenue de soirée, robe de soir multicolore, paillettes, bijoux. Ça va du bon goût au mauvais goût. Table à cocktail, champagne, serveur. On parle de tout et de rien. Et oui, on parle de tout et de rien. On est venu comme ça, parce qu'un tel est venu ou que la maîtresse de maison est sympathique.
On a fait deux ou trois disques.
Frédéric descend les marches, se trouve au milieu de la foule. Le beau-père qui le voit l'attrape par le bras, l'amène vers Elisabeth qui a une belle robe du soir, noire et or. Venez mes enfants, je vais vous présenter. Il les présente à de nombreuses personnes qui les félicitent. Puis, à 11h, lorsque tout le monde est là, le beau-père fait arrêter l'orchestre. Voilà. Et annonce officiellement les fiançailles. Applaudissements. Les fiancés ouvrent officiellement le bal. Ils sont très émus. Ensuite, Frédéric et elle ont été dispersés. Il s'est mis dans un coin et regarde la fête avec ennui. Tout d'un coup, il voit Elena avec Robert. Elle l'embrasse. Cela fait mal à Frédéric. Elena le va, lui sourit, lui tend un verre en signe d'amitié, puis laisse Robert, va vers lui. Elle titube légèrement et a les yeux qui pétillent. Félicitations, Frédéric, où dois-je plutôt féliciter ces deux-là? Elle lui montre sa mère et Elisabeth parler ensemble, rire, et lui dit « Il semble bien s'entendre, ta mère, ta reprise en main. Tu es peut-être bien entouré. Pour te sentir plus fort et oublié, fais comme moi, bois. » Elle s'éloigne. Frédéric souffre. Il la voit se retourner vers Robert.
Quand je suis seule, j'écris des chansons.
Vers Robert, le désir interdit. De l'autre côté, sa mère et Elisabeth.
Ma femme a dit que c'était une chanteuse.
Qui semble l'entourer comme dans une tenaille.
Pourtant,
elle vertige, tout tourne.
Il
entend derrière lui quelqu'un dire « Le futur mari a de la chance. Rendre heureuse une telle femme comme ça, dans un lit, c'est facile. » Il se dit « Mon Dieu, j'en suis tout à fait incapable. Sa tête tourne. Robert, Elisabeth, sa mère, il n'en peut plus. » Un cerveau passe avec des coupes à champagne. Il en prend une.
C'est sérieux?
Une heure plus tard,
quand je suis seule,
il ne sait pas combien de coupes il a pris.
Quelquefois je les chante.
Mais
quelquefois je les
sens. Qu'il est de plus en plus morose. Il aimerait mourir. Mourir. À cause de sa mère. À cause du désir qu'il a pour Robert. À cause qu'il ne peut être heureux. Elisabeth. Il en a assez de cette mascarade. Il a assez de cet état. Il veut respirer, ne plus voir tout ça. C'est faux, c'est laid. C'est pas ses fiançailles. C'est son enterrement, organisé par sa mère. Il étouffe. Sortir, sortir de cette vie qui n'est pas la sienne. Mais elle, qui est celle de sa mère, sa mère qui veut qu'il soit comme ça. L'école ne suffit pas. Pense aux médicaments. Ou Elena. Oui, Elena en prend. En plus de l'alcool. Il quitte le salon. En titubant. Monte à l'étage. Ouvre la porte de la salle de bain. Ouvre l'armoire à pharmacie. Prends un placon de comprimé, au hasard, n'importe lequel, et hop, il avale. Encore un autre. Il se regarde dans la glace de l'armoire. Il est rouge, lugubre, livide. Je ne veux pas mourir ici. Je veux mourir en paix. Il sort en courant de la salle de bain. Descend les escaliers comme il peut.
Quand je suis seule, j'écris des chansons.
Et sort de la maison. Là, une voiture de sport blanche est restée ouverte. Les clés sont sur le tableau. Il monte, met en route. Et file, file, à toute vitesse. Fonce, fonce. L'air lui fait du bien, il étouffe moins, et... a raté un virage, est tombé dans un ravin, mais a été stoppé dans sa descente par un arbre. La pièce est dans le noir, seul l'écran de télévision éclaire la pièce, il n'y a pas de son. Assis à terre devant le poste, il est là, la porte s'ouvre. C'est sa mère. Elle avance. Il se retourne, le visage enroulé de bandage, et lui jette à la figure le verre qu'il avait à la main. Stéphane Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Tenaille. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.